Descartes. Monsieur Pierre Ménard, dans un regard profond sur la philosophie politique du XVIe siècle, fait remarquer à quel point chacune des grandes figures de la Renaissance et de la Réforme demeure pour nous une énigme et soulève des controverses. On pourra s'étonner qu'il n'en soit guère autrement de celui-là même qui se flatte de s'être présenté, debout et couché, le devant et le derrière, à droite et à gauche, et en tous mes naturels plis. Montaigne a étalé jusqu'à l'indiscrétion les détails les plus oiseux de son comportement personnel, comme s'il avait décidé de figurer à la postérité un narcisse éperdu de l'amour de son ombre. Cependant, c'est lui qui nous avertit. Nul esprit généreux ne s'arrête en soi. Il prétend toujours et va outre ses forces. Il a des élans au-delà de ses effets. Ses poursuites sont sans terme et sans forme. En fait, les essais renferment la matière d'une encyclopédie, somme antiphilosophique et antithéologique tant qu'on voudra, mais où Montaigne recueille à loisir le suc de lecture constante et concentrée. Qui ne connaîtrait qu'eux posséderait déjà de larges perspectives sur les horizons de la planète aussi bien que sur les époques de l'histoire. D'autre part, se repliant sur lui-même, se demandant sans trêve « Pourquoi suis-je moi ?», Montaigne englobe dans sa question la destinée réservée à l'humanité dans son individu tant à se rendre capable. Existe-t-il, comme l'avait pensé la Boétie, une nature puissante qui soit en moi et en tous les hommes, qui nous permette de reconnaître une signification positive, une valeur intrinsèque à nos efforts vers la justice et la vérité? Dans chaque ligne de Montaigne retentit l'écho du problème éternel, tandis que la solution qu'il en esquisse est commandée par la ruine, qui apparaît irréparable, de l'unité chrétienne. Par l'impossibilité de ramener le monde à la hauteur d'héroïsme et de sagesse que la Grèce et Rome avaient atteinte. Après le double échec de la Réforme et de la Renaissance qui consacre la décadence de l'Occident, la perte de sa civilisation, il semble qu'on n'ait plus le choix qu'entre deux parties ou joindre bout à bout, comme le fera le théologal Charon, les propos sceptiques et les protestations fidéistes de l'apologie ou, comme le père Garras, lancer contre le disciple les foudres d'un dogmatisme qui n'aura jamais mieux vérifié la parole du maître. L'affirmation et l'opiniâtreté sont signes exprès de bêtise. Or, Descartes naît en 1596, un an après l'édition définitive des Essais par Mademoiselle de Gournay. Et avec Descartes, l'intime vérité de la science, l'expansion infinie de la raison, la conscience profonde du moi impliquant la présence de Dieu, surgissent du néant où Montaigne paraissait les avoir relégués pour toujours, non plus, comme dans l'Antiquité, entrevus à titre de pressentiment, non pas restaurés, mais franchement découvertes et solidement garanties, capable enfin de susciter dans les siècles qui suivront le progrès d'une spiritualité authentique. Et cela, précisons-le, avant d'en aborder la démonstration, sans que soit contestée aucunement la justesse de la critique qui ruine le savoir prétendu, la métaphysique illusoire des temps anciens et du Moyen-Âge. Descartes entreprend de répondre à Montaigne, ses conclusions lui donnent tort sur tous les points. Mais c'est après s'être mis à son école, après avoir tout accepté de lui. Ainsi, par Descartes, à la décrépitude qui menaçait d'être irrémédiable, succède tout d'un coup la promesse d'un rajeunissement foudroyant. On ne saurait concevoir de transformation aussi paradoxale, d'une portée plus lointaine, dont il y ait davantage intérêt à examiner les ressorts. Sauf dans la correspondance avec le marquis de Newcastle, à l'occasion du débat sur les bêtes machines, le nom de Montaigne n'est pas mentionné par Descartes. Mais les contemporains n'avaient pas besoin d'une indication expresse pour saisir le lien des deux œuvres. Publiant en français les trois essais, Dioptrique, Météore, Géométrie, Descartes les fait précéder d'une préface, discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, que dernière phrase il met sous le parrainage de Montaigne. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. On est tenté de voir là un axiome caractéristique par excellence de la pensée cartésienne et qui suffirait pour en prévoir les thèmes essentiels. En fait, c'est une simple citation des essais. On dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du sens. Montaigne poursuit. Car il n'est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui en a distribué. Motivation ironique dont Descartes hérite à son tour. Car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. D'où peut alors provenir le défaut de cette universalité à laquelle, pour Descartes comme pour Montaigne, se reconnaît la réalité d'un jugement droit, sinon de la diversité des voies où les hommes se sont engagés ou, pour parler d'une façon plus exacte, il leur est arrivé d'avoir été engagés malgré eux. Il importe donc qu'ils reviennent sur leur passé intellectuel, qu'ils retracent à l'exemple de l'auteur des essais l'histoire de leur esprit, afin de rentrer en possession de cette faculté naturelle de discerner le vrai d'avec le faux, qui dans son essence est libre, mais qui en fait se trouve, et dès notre enfance, prévenu et aliéné par l'autorité fallacieuse des nourrices et des précepteurs. Dans la première partie du discours, l'examen public de l'enseignement donné au collège de la Flèche répond, trait pour trait, à la critique de la pédagogie qui a été en honneur au collège de Guyenne. Sous la même apparence de respect, c'est la même finesse de raillerie à l'égard du dogmatisme de l'école, en commençant par la présomption, péché mignon des théologiens. Montaigne dénonçait la curiosité indistraite qui s'attache aux saints livres des sacrés mystères de notre créance. Ce n'est pas l'étude de tout le monde, c'est l'étude des personnes qui y sont vouées, que Dieu y appelle. Et Descartes écrit à son tour que pour avoir le droit de s'y aventurer, il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel et d'être plus qu'homme. Quant aux occupations des hommes purement hommes, il convient de reconnaître que la jurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses à ceux qui les cultivent, que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et se faire admirer des moins savants. Rien, en effet, n'aurait pu être mieux imaginé pour en apposer au vulgaire et s'établir dans le monde qu'une discipline toute d'abstraction et de rigidité, comme est la logique formelle. L'esprit se laisse emprisonner dans la hiérarchie des universaux qui préside à l'architecture de la déduction syllogistique. Mais Montaigne faisait déjà observer que notre discours bâtit aussi bien sur le vide que sur le plein. En fait, je sais mieux que c'est comme que je ne sais que c'est animal ou mortel ou raisonnable. Et c'est l'exemple que Descartes met dans la bouche de son porte-parole Eudox au cours du dialogue inachevé, la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Si je demandais à Épistémon lui-même ce qu'est l'homme, et s'il me répondait, comme on a coutume de faire dans les écoles, que l'homme est un animal raisonnable, et en outre, pour expliquer ces deux termes qui ne sont pas moins obscurs que le premier, il nous conduisait par tous ces degrés qu'on nomme métaphysiques, certes, nous serions engagés dans un labyrinthe dont nous ne pourrions jamais sortir. De cette question, en effet, deux autres naissent. La première, qu'est-ce qu'animal? La seconde, qu'est-ce que raisonnable? Et de plus, si, pour expliquer ce qu'est un animal et répondait que c'est un vivant doué de sensibilité, et qu'un vivant est un corps animé et qu'un corps est une substance corporelle, vous voyez sur le champ que les questions s'augmentent et se multiplient comme les rameaux d'un arbre généalogique, et que pour finir, il est assez évident que toutes ces belles questions se termineraient en une pure bathologie qui n'éclairait rien et nous laisserait dans notre ignorance primitive. L'article dont sont victimes ceux qui ont suivi aveuglement Aristote se découvre sans peine. Il consiste à détourner des prémices l'attention afin de la reporter sur l'enchaînement des conséquences. Or, écrit Descartes dans la lettre préface pour la traduction française des Principes de la philosophie, toutes les conclusions que l'on déduit d'un principe qui n'est pas évident peuvent ne pas être évidentes, quand bien même elles en seraient déduites évidemment. La souveraineté prétendue de l'appareil logique demeure donc impuissante à pénétrer dans le domaine du réel. Tant que le syllogisme se fera passer pour l'expression authentique de la raison, il est inévitable que l'esprit soit renvoyé à l'expérience comme un unique moyen de rétablir le contact entre la nature et l'homme. C'est bien l'avis du sens commun. Et son interprète, Polyandre, le troisième interlocuteur de la recherche de la vérité, en laisse paraître une sorte d'effroi au rappel des arguments classiques des académiciens et des pyrrhoniens. Pourtant, quiconque a fait vœu d'aller vers le vrai ne saurait s'arrêter à mi-chemin. Il ne peut suffire à Descartes d'insister sur les multiples causes d'erreur qui entourent la perception des sens, sur l'impossibilité de s'en remettre à la conscience puisqu'elle éprouve la même impression de données immédiates dans le rêve et dans la veille. Pour en finir avec l'indolence dogmatique qui se retranche derrière la théologie des intermédiaires, il évoque, interposé entre Dieu et nous, un malin génie dont le pouvoir surnaturel s'emploie à nous tromper systématiquement, alors que nous affirmons sur la foi de nos yeux le mouvement diurne du soleil et des étoiles. Alors que nous sommes obligés d'étaler nos raisonnements à travers le temps, et que notre mémoire est incapable de nous garantir qu'elle a exactement conservé les termes des propositions initiales dans le moment où nous travaillons à en développer les conséquences. Faut-il que nous nous déclarions condamnés à imiter ces voyageurs, lesquels, ayant laissé le grand chemin pour prendre la traverse, demeurent égarés entre les épines et les précipices? Rassurons-nous, le Béry n'est mortel que pour ceux dont Descartes dira qu'ils ne connaissent pas le gué. Il y a un gué. En effet, Descartes l'avait aperçu, quelque 18 ans avant la publication du discours de la méthode, dans une crise d'enthousiasme qui devait illuminer sa carrière et transformer la destinée spirituelle de l'Occident.